Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Taillandier, la directrice générale de Nestlé Purina France, le leader du marché des produits alimentaires pour chats et chiens. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. En plus, c'est un secteur qu'on n'a absolument pas eu et qui me parle beaucoup, parce que moi-même, j'ai un petit chat. Et je pense qu'on est tous soucieux de savoir ce qu'on donne à nos animaux, puisque nos animaux, c'est quand même des êtres vivants à part entière et on les aime beaucoup. On va commencer par quoi ? Par ce poste. Depuis quand tu es arrivée chez Purina ?
Alors, bonjour Alice, déjà merci de me recevoir. Je suis à ce poste depuis 3 ans, mais en réalité, les aliments pour chats et chiens, je suis tombée dedans il y a plus de 30 ans, en marketing. Et cette catégorie extrêmement intéressante, parce que ça va au-delà de l'alimentation, il y a tout ce qu'il y a comme relation entre les chats, les chiens et leurs possesseurs, m'a vraiment captivée et voilà, il y a permis de nourrir ma curiosité pendant toutes ces années. Donc évidemment, j'ai évolué de poste dans l'entreprise, mais ça fait une bonne expérience.
Donc c'est toi qui as choisi d'aller dans ce secteur d'activité ?
Alors, au départ, j'avais répondu à une annonce en pensant que c'était pour les céréales. Et je me retrouve dans
et t'as mangé des croquettes.
Et je me retrouve dans un entretien pour les aliments pour chiens. En l'occurrence, c'était sur la marque Fido. Et je me suis dit, mais banco, ça a l'air hyper sympa. Et puis, je suis rentrée dedans. Je me suis dit, bon, on verra, j'évoluerai, je changerai. Puis non, parce que c'était vraiment hyper intéressant.
Et tu avais déjà un affect particulier pour les animaux, pas spécialement à l'époque ?
Oui, j'avais un affect pour les animaux. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. J'avais un chat quand j'étais petite, qui était mon chat. J'ai fait un peu d'équitation. Voilà, donc j'ai, on va dire, une certaine attirance pour les animaux. Donc oui, tout à fait.
Moi, j'ai une petite question par curiosité. Pourquoi est-ce que c'est uniquement chat et chien ? On ne pourrait pas diversifier, même aller toucher plus d'animaux domestiques, peut-être ? Enfin, après, je te dis domestique, mon père a un caméléon, donc je ne sais pas ce qu'on peut qualifier de domestique, mais pourquoi pas élargir la gamme à d'autres types d'animaux ?
Alors, on avait à une époque un business un peu plus large avec effectivement ce qu'on appelait les NAC, c'est les nouveaux animaux de compagnie, donc oiseaux, poissons, chats, rongeurs, etc. Mais c'est en fait des dynamiques de business qui sont assez différentes, même si ça reste bien sûr des animaux de compagnie. Donc, on a préféré se concentrer sur chats et chiens, d'autant plus que c'est là qu'on a notre expertise originelle de nutrition pour les animaux. Le Purina est né il y a plus de 125 ans et aux États-Unis, dans le Missouri, et vraiment sur la base d'aliments pour chiens au départ et ensuite développer les aliments pour chats. Donc, c'est vraiment là qu'on a notre expertise nutritionnelle qui permet la bonne santé des animaux. Donc, ça serait un peu connexe, on va dire, de partir sur d'autres catégories d'animaux.
Et j'imagine qu'en 125 ans, l'offre a évolué, mais aussi la demande du consommateur a évolué.
Ça a beaucoup changé. Alors, en 125 ans, je ne saurais pas remonter tant que ça.
Je ne te donne pas. Alors, ce n'est pas un message implicite pour te dire que tu fais 125 ans.
Sur 30 ans, presque ouais. 30 ans. En réalité, je n'ai pas tout à fait 30 ans mais d'expérience. Mais sur 30 ans, c'est vrai que j'ai beaucoup vu évoluer le marché, notamment en termes de produits. Aujourd'hui, on a plus de 500 produits dans nos gammes pour Purina.
Mais parce qu'il y a 500 besoins différents ?
Tout à fait. Il y a une grande segmentation du marché. Juste pour aller très très rapidement, mais ne serait-ce que sur le marché du chien, on va segmenter par taille, on va segmenter par type de chien, on va segmenter par rage, on va segmenter par besoin, c'est-à-dire chien actif, pas actif, chien qui de chasse par exemple. Voilà, donc et tout ça, ça fait en fait beaucoup de croisements et du coup, ça fait des gammes qui sont extrêmement larges.
Forcément, là, j'ai fait une question quand on parle aujourd'hui de déconsommation et de réduire aussi l'offre en général, parce que plus il y a d'offres et plus il y a de choix. Finalement, est-ce qu'on répond à un vrai besoin ou est-ce que c'est un peu du confort ?
Alors, on répond à un vrai besoin en ce sens que on fait des produits qui répondent à un besoin nutritionnel spécifique. Donc, notre expertise chez Purina, c'est de savoir quel est le profil nutritionnel qui est adapté à tel type de chien ou tel type de comportement.
Comme le sans gluten pour nous, typiquement.
Par exemple, on n'a pas ce genre d'aliments pour les animaux, mais voilà. Et donc, de faire vraiment un produit qui répond à un besoin spécifique, il faut avoir en tête que l'alimentation des chats et des chiens, c'est finalement... Ils ne mangent qu'un seul produit dans la journée. C'est pas un repas composé de beaucoup de choses, d'accord? Donc, c'est très important dans la santé de l'animal. Et c'est pour ça qu'on a des produits qui sont adaptés à chaque besoin et on définit ça. Et si il y a des choses qui sont, on va dire, trop marketing... On ne les fait pas.
Donc finalement, c'est plutôt une dynamique de bien-être animal plutôt que de proposer plein de produits, puisque finalement, même s'il n'y avait qu'un seul produit, il se vendrait, vu qu'on a besoin de le nourrir.
Tout à fait, donc, mais il ne serait pas nécessairement adapté aux besoins physiologiques de l'animal.
Et comment en fait vous réinventez ces offres ? Est-ce que les produits même utilisés, les matières premières, sont nobles, sont de plus en plus respectueux justement de l'environnement ?
Alors, en termes de respect de l'environnement, évidemment, c'est un sujet qu'on prend à bras-le-corps chez Purina et chez Nestlé, d'ailleurs, d'une manière générale. Les produits qu'on utilise sont essentiellement des viandes, des céréales, des légumes et puis des vitamines et minéraux. Les viandes qu'on utilise sont des viandes qui sont issues de l'alimentation humaine et qui sont les parties qui ne sont pas consommées par les humains, parce que culturellement, on ne consomme pas tous les foies, ou on ne va pas consommer les poumons ou les têtes de poisson, etc.
Donc, c'est des parties qui auraient été jetées.
C'est des parties qui auraient été jetées.
On ne va pas produire exactement pour faire de l'alimentation pour les animaux.
Donc, c'est très, très juste, Alice. C'est hyper important d'avoir ça.
Non, mais c'est bien de le dire, c'est important de
savoir.
On ne
produit pas d'animaux pour faire du pet food. On utilise des... ce qu'on appelle des coproduits animaux. Donc voilà, ce sont les parties qui ne sont non consommées par les humains. Donc ça déjà, je trouve que c'est une utilisation finalement de matières premières qui sinon donc serait méthanisée pour utiliser le jargon en technique. Pour ce qui concerne les céréales, on a déjà le souhait de faire au maximum du local. Donc, on a la chance en France d'être à la fois un pays agricole et à la fois un pays producteur, puisqu'on a 5 usines en France et plus de 80% des produits que je commercialise sont produits en France. Donc, on utilise là 100% de blé français et de maïs d'ailleurs français. Et on favorise ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice pour justement avoir un approvisionnement responsable. Donc oui, la responsabilité sur les ingrédients, très clairement, c'est quelque chose qui est clé chez Purina.
Et donc j'imagine qu'il y a aussi une démarche pour accompagner ces agriculteurs. Il y a un système de fidélité, c'est toujours les mêmes agriculteurs avec lesquels vous travaillez ?
Alors on travaille avec 140 agriculteurs qui sont basés dans le nord et l'est de la France. Et on travaille avec 4 coopératives. Donc il y a bien sûr des intermédiaires entre nous les agriculteurs, parce que d'abord ce n'est pas notre métier d'être agriculteur. Et un organisme qui s'appelle Earthworm et qui justement apporte tout le savoir-faire pour ces pratiques, pour pouvoir les mettre en place, parce que ce n'est pas une agriculture, on va dire, traditionnelle. Donc, j'ai moi-même l'occasion de visiter un de ces agriculteurs, et effectivement, il m'a expliqué que c'est la complexité que ça pouvait générer quand même pour eux, et puis peut-être une part de risque aussi, donc c'est important de bien les accompagner.
Donc, ils vendent que pour faire ce type d'aliments, ils ne peuvent pas vendre pour notre alimentation à nous ?
Si, bien sûr.
Si, ils peuvent
vendre.
D'accord,
via la coopérative, ils vendent l'ensemble de leur production. Mais nous, on s'assure qu'on achète bien la production qui a été produite en agriculture régénératrice.
Et est-ce que tu as vu, avec ces confinements, moi, j'ai entendu pas mal de chiffres qui disaient qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui adoptaient des chats, des chiens, pour après, d'ailleurs, souvent les abandonner. Est-ce que du coup, toi, tu as vu une hausse de la demande et même des ventes ?
Alors, il y a deux phénomènes qui sont contradictoires, donc je veux dire une chose et son contraire. On fait une étude tous les deux ans avec notre syndicat des aliments pour animaux pour dénombrer le nombre de chats et de chiens. Donc, c'est une étude qui est assez fiable en ce qu'elle est faite tous les deux ans par le même institut. Donc, on a vu que le nombre de chiens était stable par rapport à 2018. L'étude était faite en novembre 2020. Donc, le nombre de chiens est stable, pas d'évolution. Et d'ailleurs, comme les années précédentes, le nombre de chats a augmenté de plus 6,5% en deux ans, donc 3% et quelques par an. C'est pas tellement plus que les années antérieures. Donc, on peut pas dire, au vu des résultats de cette enquête, qu'il y ait eu une explosion du nombre de chats et chiens.
Oui.
On est dans la continuité, on va dire, naturelle. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu un rush, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches d'adoption. Et que du coup, beaucoup de gens se sont finalement précipités, d'une certaine manière, sur les chiots qui étaient disponibles, sur les chats qui étaient disponibles, sur les animaux qui
surtout
étaient
les,
disponibles
les bébés,
dans
chatons,
les refuges,
chiots,
etc.
Oui.
Voilà, donc il y a eu une espèce de... On a eu l'impression que tout le monde, on va dire, prenait un chat ou un chien, mais en réalité, c'est parce qu'il y a eu une espèce de rush. De toute façon, les éleveurs ne peuvent pas produire plus de chiots.
Non, parce que d'ailleurs, voilà. Moi, je sais, quand j'ai adopté mon petit chaton, je l'ai adopté à la SPA, ils n'avaient plus de petits chatons. En fait, déjà, et pourtant, c'était avant la pandémie et tout, donc il y avait déjà une forte demande, j'ai l'impression, en matière de bébés, notamment.
Tout à fait, en matière de bébés. Et puis, des conversations que j'ai pu avoir avec la SPA, également, sur les chiens, ils ont plus rapidement que d'habitude... réussi à retrouver un foyer pour les chiens qu'ils avaient. Donc, ça a été plus vite, ça a été plus ramassé. En réalité, en particulier entre mars 2020, du premier confinement, et l'été. Pour ce qui concerne les abandons, au cours de l'année 2021, enfin, jusqu'à présent, on n'a rien vu. On verra, j'ai envie de dire, à la fin
d'accord,
de l'année.
D'accord, pour le moment, il n'y a pas encore de constat.
Non, on n'a pas ce type de constat.
D'accord.
Et donc, la deuxième chose, vous m'avez dit, est-ce que vous avez vu une évolution de la demande? Alors oui, j'ai vu une évolution de la demande. Effectivement, le marché est assez dynamique. Il était autour de plus 7-8%. Et alors que les années antérieures, c'était plutôt du plus 3, plus 4. Donc, il y a eu un peu de dynamisme sur le marché. Alors, il y a plein d'effets, on va dire, de bord qui sont les effets de confinement. Donc, les gens se stockent parce qu'ils ont tellement peur de ne pas trouver... l'aliment dont le chat ou le chien...
Mais surtout si c'est spécifique, en fait.
Donc, il y a eu énormément de panic buying, comme on dit dans le jargon. C'était assez incroyable. Mais bon, après, les gens, quand ils ont compris qu'on arrivait à assurer, ils ont déstocké. Mais il y a eu surtout, effectivement, une augmentation de la consommation sur tout ce qui était faire plaisir à son animal, un peu plus d'aliments, un peu plus premium. Je pense que la proximité avec l'animal a fait que les gens ont eu envie de faire un peu plus plaisir.
Et il n'y a pas le côté bio aussi ? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'il y a de plus en plus, pour avoir testé plusieurs types de croquettes, il y a aussi une offre bio qui apparaît, qu'il n'y avait pas avant d'ailleurs, enfin, qui n'était pas aussi présente. Et est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose, un produit d'avenir ?
Alors, bio le bio, on en a dans nos gammes. On n'a que deux références, mais on en a. Très honnêtement, ça se développe lentement.
Il n'y a pas encore une grosse demande,
non,
en fait.
Pour le moment, non, il n'y a pas encore une grosse
les
demande.
Les gens préfèrent consommer bio pour eux, mais alors pour leurs animaux...
Ouais, je ne sais pas. En plus, faire un aliment pour chat et chien en bio, c'est très, très compliqué parce qu'on a beaucoup d'ingrédients.
Et donc, est-ce qu'en plus, il y a des études qui sont faites sur les pesticides, enfin, sur eux, leur rapport au... longévité, pesticides, non, pas forcément.
Pas que je sache, je ne saurais pas répondre à cette question.
Non, mais c'est vraiment, moi, c'est vraiment des questions que je me pose même moi-même, puisque je teste plusieurs types aussi pour mon petit animal. Et moi, de toute façon, il doit avoir des croquettes spéciales. J'ai d'autres questions, notamment sur les engagements, puisque là, on parlait des abandons, etc. Et donc, comme finalement, au cœur du produit, il y a le maître, puisque c'est le maître qui va acheter les croquettes, enfin l'alimentation, mais c'est aussi l'animal, son bien-être. Est-ce qu'il y a des engagements de Purina ? Est-ce que Purina prend des engagements
pour
le bien-être animal ?
Oui, alors on a en 2013, donc ça fait longtemps qu'on a des engagements, on va dire, de développement durable, et puis qu'on s'intéresse beaucoup à la relation homme-animal, mais... En 2013, on a fait une étude pour comprendre un petit peu quelles étaient les préoccupations majeures des principales parties prenantes, consommateurs, mais aussi les fournisseurs ou les vétérinaires, etc., sur le marché. Et on s'est aperçu qu'il y avait finalement trois volets principaux de préoccupations. Donc, toute la partie responsabilité, ingrédients, approvisionnement responsable, aussi emballage, on pourrait y revenir un peu plus tard. Toute une partie sur les animaux, donc la nutrition, on l'a évoqué, les produits, etc. Et puis toute une partie sur le rôle de l'animal dans la société et les bienfaits des animaux. Donc, à partir de là, de cette étude, en 2016, on a lancé 10 engagements sur ces trois volets que je viens d'évoquer. Et il y avait quatre engagements sur la partie rôle de l'animal dans la société. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est très important pour nous et qui, j'ai envie de dire, est aussi basé sur une conviction très, très forte que je partage et que mes collaborateurs partagent, qui est que quand les animaux et les hommes vivent ensemble, la vie est meilleure. Et on le vit, voilà. Et donc, c'est vraiment important
mais,
pour nous.
Mais aussi, peut-être, sensibiliser à l'adoption, le fait qu'un animal n'est pas un jouet, en fait. C'est un être vivant. Est-ce que ça, c'est aussi des choses que vous faites ?
Dans nos engagements, dans les quatre engagements qui sont envers, justement, les animaux, un des volets, c'est promouvoir l'adoption d'animaux, justement. Donc, ça, c'est un des volets. Donc, oui, c'est un sujet sur lequel on s'engage. On a été partenaire pendant... on est toujours, d'ailleurs, partenaire avec l'appli Adopte-moi, qui permet, effectivement, de mettre en avant des animaux adoptés. Pendant le Covid, on a été aussi partenaire de la SPA, parce qu'effectivement, ils ont eu une période un petit peu paniquante de fermeture de refuge, puisque on était tous confinés. Et donc, les personnes ne pouvaient plus aller dans les refuges. En revanche, ça, les animaux continuaient d'être abandonnés. Et donc, il y avait embouteillage, on va dire. Et il y avait vraiment urgence à rouvrir les refuges. Donc, on les a aidés par un soutien financier à pouvoir mettre en place des mesures pour convaincre le gouvernement de rouvrir les refuges. Et ils ont pu le faire à partir du 6 avril 2020.
Donc, avant le déconfinement.
Exactement. Et, okay. Et on était très contents parce que, voilà,
c'est
on a pu les accompagner.
C'est quand même tardif, hein, mais voilà. Ils auraient dû... Okay, ouais. Ouais, super. Et bah, tu me parlais des packaging, donc forcément, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a aussi une dynamique éco-responsable sur les packaging ?
Tout à fait. Donc, l'objectif pour moi et pour nous, c'est vraiment qu'aucun de nos packaging ne finisse comme déchet, très clairement. Alors, on a un avantage dans le marché du pet food, donc c'est les aliments pour animaux. Et je suis désolée si j'utilise pet food, mais c'est mon quotidien. Donc,
non, parce que tu viens d'expliquer le mot, donc voilà. C'est parfait.
On a un engagement, voilà, c'est que ça ne peut pas finir comme déchet. On a un avantage, c'est qu'en général, alimenter son animal n'est pas fait en mode nomade. C'est souvent à la maison. Donc déjà, ça facilite, on va dire, le geste de tri. Donc ça déjà c'est une chose qui est importante parce que c'est pas toujours le cas pour la consommation d'alimentation, parfois on la consomme en nomade. Bon, donc déjà nous c'est à domicile donc ça facilite. Ensuite très clairement on a des emballages aujourd'hui qui sont pas optimisés, mais on a pour objectif d'ici 2025 d'avoir 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables. Et pour ça il faut qu'on travaille, et on y est vraiment d'arrache-pied, sur le fait de passer nos emballages de ce qu'on appelle du multicouche. D'accord,
oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs. Oui, c'est pour les odeurs ? Tiens, j'ai une question. Pourquoi il y a autant de couches ?
Effectivement, je le dis souvent à des gens qui me posent la question, mais on n'a pas fait des emballages comme ça juste pour polluer la planète. Hein. On fait des emballages comme ça parce qu'ils ont une vraie raison d'exister, qui est effectivement, c'est une barrière au gras, par exemple, pour que le gras ne sorte pas. C'est une barrière pour les odeurs. C'est une barrière, enfin plutôt, ça permet la conservation du goût et des vitamines. Et ça permet aussi à ce que les petites bêtes qui aiment beaucoup les protéines animales ne rentrent pas dans le paquet. Donc voilà, ça a une vraie vocation de protection de l'emballage, au-delà bien sûr du transport, etc.
Et la technologie éco-responsable a déjà été trouvée pour les remplacer ou pas encore ? Ou si justement des recherches, des investissements
Alors, c'est beaucoup de recherches et d'investissements, mais on avance, je trouve, très honnêtement, par rapport à là où on était, ce qu'on avait déjà pris dans le cadre de nos 10 engagements, un engagement sur les emballages. Et je me disais, mais on ne va jamais y arriver. Je trouve qu'on va très, très vite. Donc aujourd'hui, on a réussi en 2020 à passer à nos emballages donc multicouches, donc avec plusieurs couches, à monocouches. C'est sur une gamme pour l'instant restreinte qui s'appelle Beyond Grain Free. Et ça fonctionne bien. Donc on commence toujours par une petite gamme, une petite quantité. D'abord, pour voir si ça tient bien le choc pendant les 18 mois de la durée de vie du produit, quand même, parce que, bon, en général, ils sont consommés avant, parce qu'on a des produits avec des fortes rotations, enfin, des fortes demandes. Donc, en général, ça ne dure pas 18 mois, mais bon. Et puis, aussi parce que ça demande d'équiper beaucoup de lignes, ça demande de trouver le fournisseur qui fait ce nouveau type de matériaux, etc. Donc, ça prend du temps, en réalité. Donc, une fois qu'on a trouvé une solution, elle ne peut pas s'implémenter de manière, on va dire, boum. Ça, ce n'est pas possible.
Et tu me disais que tu testais pour une gamme parce que chaque gamme a des packagings différents. Alors, encore une fois, en raison des contraintes de grade, etc.
presque chaque gamme. Alors, on va dire qu'on a des types d'emballages, mais différents, effectivement, suivant les types de gammes, notamment en fonction des pourcentages de protéines, de gras, etc., pour ce qui concerne le sec. Et pour ce qui concerne donc l'humide, bien, ça dépend des barèmes de stérilisation, enfin, des choses comme ça. Voilà.
Donc, c'est toute une technologie d'emballage.
Oui, on a beaucoup d'emballages différents. Donc, voilà.
Et tu me parlais de 18 mois, et moi, donc, j'ai envie de te parler de DLC et DLUO, justement pour éviter le gaspillage, même si, bon, si quelqu'un a un chat comme crapule, il n'y a pas de gaspillage sur les croquettes en général. Mais ça peut arriver à un consommateur lambda qui voit que ses croquettes sont périmées. Est-ce qu'il peut quand même encore les consommer quelques mois après, où il y a des risques pour l'animal?
Je n'ai pas une réponse de scientifique à donner sur ça, parce que j'avoue, je me suis jamais posé la question. En général, en plus, comme je le dis, on a vraiment des produits à forte rotation. Voilà. Je pense que oui. Après, les qualités, on va dire, nutritionnelles seront certainement moins bonnes. Peut-être, il sentira une odeur de rance.
C'est ça.
Pour ce qui est de la stérilisation, franchement, je pense que tout ce qui est stérilisé, il n'y a aucun problème. Pour tout ce qui est sec, je pense qu'il faut sentir le produit, le regarder. Et après, oui, c'est une question de bon sens.
Comme beaucoup de choses. Et alors, depuis quelques temps, je mets en place une question de l'auditeur. Et aujourd'hui, un auditeur nous a demandé d'où venait... c'est une question sur la provenance et la traçabilité des matières premières. Est-ce que tu peux y répondre? D'où elles proviennent? Tu me l'as dit globalement, c'est France.
Alors, pour ce qui concerne les céréales, oui. Pour ce qui concerne les viandes et poissons, d'ailleurs, parce que je dis viande, mais en réalité, ça vient aussi des poissons. Ça vient majoritairement d'Europe. Ce qui est certain, c'est qu'on assure la traçabilité de tous nos fournisseurs, de nos matières premières, avec des fournisseurs sérieux et qui sont fiables. Et bien sûr, on a...
Au plus proche aussi, vous essayez vraiment de rapprocher tous les...
Tout à fait.
De limiter votre empreinte carbone,
exactement.
J'imagine.
Exactement. Donc, on a un code des fournisseurs chez Nestlé, vous imaginez bien. Même si, effectivement, le fait de s'appeler parfois du nom d'une grosse multinationale peut être perçu comme on ne va pas faire les choses bien, mais bien sûr, on fait les choses au mieux et au plus juste, et bien sûr, on peut tracer nos matières premières.
Et sur l'empreinte carbone, donc, ce qui était aussi ma question, vous avez un objectif de la réduire encore?
Alors, on est très clair là-dessus. À horizon 2050, on sera neutre en carbone.
Comme beaucoup d'entreprises qui prennent cet engagement, le net carbone en 50. Et pourquoi pas avant?
Avant, on sera à moins 50 d'ici 2030. Okay. C'est dans 8 ans, 2030. Il y a vraiment beaucoup de travail. Sachant qu'il faut qu'on arrive quand même à avoir un business model qui nous permette de faire de la croissance. Et donc, il faut qu'on compense plus que ce qu'on a aujourd'hui pour arriver à moins 50%. Si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'ici là, on aura... encore eu de la croissance sur le marché. Et donc, voilà, il faut compenser encore plus que 50% pour arriver à une réduction de 50% en 2030. Donc, c'est un objectif très, très ambitieux, mais je suis confiante qu'on y arrivera.
Il faut.
Qu'on y arrivera. On met tout en place, en tout cas.
Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs? Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ensemble, peut-être?
Ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est notre implication avec des associations qui œuvrent justement, enfin qui utilisent le lien homme-animal, pour améliorer la société. Et on a mis en place un prix au niveau européen pour promouvoir des associations au niveau des marchés qui utilisent ce lien. Et en France, on a eu la chance en 2020 d'avoir 25 associations qui ont été sélectionnées parmi les 150 européennes et 3 finalistes parmi les 8. Je voulais mettre ça en avant parce que je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être méconnu et ça a permis à ces associations qui ont été accompagnées par des collaborateurs. Moi-même, j'en ai mentoré une qui utilisait le chien comme médiateur dans la réinsertion de prisonniers. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très important de savoir qu'on fait aussi beaucoup de choses dans l'utilisation ou en tout cas l'impact que les animaux peuvent avoir sur la société. Donc voilà, ça c'était quelque chose d'important pour moi. Et si je devais donner un autre exemple, on accompagne également une association qui s'appelle Andy Chien et qui forme et remet des chiens d'handicapés physiques, aveugles ou bien d'enfants qui ont des problèmes, on va dire, de santé mentale. Et nous, en particulier, on les accompagne sur le volet de l'autisme. Donc, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment des bienfaits des animaux sur la société en général, sur la santé mentale. C'est quelque chose que je voudrais ajouter. En particulier parce que c'est quelque chose qui motive beaucoup les collaborateurs et sur lequel ils travaillent beaucoup et collectivement. Et ils sont très engagés sur le sujet. Je voulais les remercier aussi à cette occasion.
C'est un très joli mot de la fin. Et c'est vrai que ces petites bêtes, on les aime énormément. Et je crois même qu'avoir un chat ou un chien allonge l'espérance de vie. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais lu une étude comme ça. Le bien-être, en tout cas. Enfin, en fait, ça sécrète l'hormone du bonheur. Et du coup, on vit plus vieux, plus heureux.
Quand on caresse un chien, effectivement, par exemple, moi, je sais qu'au bureau, on a des chiens. Quand je suis un peu stressée, je vais caresser un chien et ça me calme tout de suite parce que ça stimule l'ocytocine ou...
Oui, une hormone.
Une hormone du bonheur.
Ouais, du bonheur.
Et effectivement, de toute façon, on le sait, on a fait une étude post-confinement et 80% des personnes interrogées ont dit que leur chat ou leur chien les a aidés à diminuer l'anxiété qu'ils pouvaient avoir pendant le confinement. Donc, ça a des impacts, des bienfaits incroyables. Mais ça peut même être une aide, c'est-à-dire sur la santé mentale, par exemple, de gens qui ont des problèmes vraiment mentaux importants. Ça a vraiment une aide forte. Donc, je pense qu'il faut le savoir.
Bon, je passe un coucou à Crapule qui écoutera mon podcast avec moi. Merci d'être venu dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.